Le grand dialogue.
Sigika Foba.
Edowani Wamakaran.
Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Halud Mouni.
Chen Nibiru. Sigika Foba.
Le grand dialogue.
Le grand dialogue. Nous sommes en fin de semaine, le point de l'actualité hebdomadaire, c'est tout de suite ici à Tamani. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au Grand Dialogue. Et comme tous les vendredis, il est rebaptisé Forum de la presse. Nos thèmes d'aujourd'hui sont les suivants. La motion de censure de l'opposition au Parlement, le retard dans le décaissement des fonds du FMI, la mutinerie à la prison centrale de Bamako, des prisonniers se sont évadés, l'utilisation abusive des biens de l'État et la francophonie qui se cherche un chef. Nos invités pour ce débat, Sekou Tangara de Africable, Mamadou Dabo du Zénith Ballet qui sera au téléphone, Draman Alou de l'Indicateur du Renouveau. Merci messieurs pour votre disponibilité. Au micro, Famoussa Sidibé, je suis assisté à la technique par Petit Ndiara.
Studio Tamani.
La motion de censure de l'opposition au Parlement, quels ont été les effets de cette motion de censure tant pour l'opposition que pour la majorité? Draman Alou Kouné.
Bon, merci, j'ai réussi les résultats de Tamani. En fait, moi, j'ai été étonné par la motion de censure. Avec 22 députés seulement, si on peut faire une motion de censure. Depuis hier, j'ai fait mes enquêtes. J'ai compris que c'est à la limite la majorité qui avait inspiré cette motion de censure. Ils avaient donné vraiment presque la garantie à l'opposition qu'ils vont suivre l'opposition dans cette procédure-là. Malheureusement, je sais qu'entre le vendredi dernier et le vote, il y a eu beaucoup de tracasseries, il y a eu des démarches, il y a eu des conseillers à bulles. On sait qu'on a fait beaucoup de promesses, ils sont passés par là. Et l'opposition s'est trouvée avec seulement 2 voix de l'opposition et de la majorité. Aujourd'hui, je vois que l'opposition a beaucoup perdu dans ça. Parce que l'impression qu'on a donnée à l'opinion, c'est que c'était un discours qui a été assez huilé. On a présenté l'opposition comme étant des apatrides. Des gens qui sont soucieux de la situation du pays. D'ailleurs, j'ai l'habitude de dire que se poser au Mali est très difficile parce que finalement, on te croit comme être un égoïste, un méchant type, un gars de mauvaise foi. Et dans tout le débat, c'est ce qu'on a fait croire aux gens, que l'opposition ne veut pas que ce pays s'en sorte parce que, vu la situation actuelle, est-ce qu'on doit chercher à rajouter? Elle a beaucoup porté beaucoup de plumes dans cette motion de censure, il faut se dire. Et de l'autre côté, la motion aussi a raté le coche. Parce que c'était une occasion pour les amis du pouvoir de rappeler, d'imposer le fait majoritaire. Qu'on le veuille ou pas, le Premier ministre actuel n'est pas légitime comme le souhaite parce qu'il est issu d'un parti qui n'a qu'un seul député. Dans aucun pays du monde, on a vu ça. Bon, comme le Mali est le champion de tout ce qui est. De tout ce qui n'est pas extraordinaire, de tout ce qui est sort de de la norme, on l'a fait Premier ministre. Et l'opposition devait quand même, au moins, s'il y avait des voix qui étaient ajoutées à celles de l'opposition, je parle de la majorité, on allait quand même comprendre que peut-être la prochaine fois, pas partir du Premier ministre. Malheureusement, les menaces et les critiques qu'on entendait dans les allées de l'Assemblée sont restées dans les allées. Il n'y a pas eu d'effet dans le débat. Et malheureusement aussi pour la démocratie malienne, on a reçu le coche. Je ne suis pas d'accord qu'on dise que c'était une manière de mettre les institutions en péril. Non. C'était vraiment un 14 jaune qu'on pouvait planter à ces régimes, auxquels on peut beaucoup de choses. Mais malheureusement, autant l'opposition que la majorité, chacun des deux camps ont raté le coche.
Alors, Mamadou Dabo du Zénith Ballet, quelles leçons est-ce que la majorité et l'opposition doivent tirer de cet exercice?
Bon, mon avis là-dessus, c'est que l'opposition a donné une leçon de majorité aux Maliens. C'est la preuve que la démocratie existe bel et bien dans notre pays. Et je pense que la majorité devait en profiter, parce que cela profite beaucoup plus à la majorité même qu'à l'opposition. Ensuite, je ne sais pas si le RPM a compris que c'était l'occasion de faire d'un Premier ministre 40 qui est parti soulever un problème qu'il devait résoudre d'abord avant son départ. au lieu d'aller dans l'impréparation, dans l'improvisation à Kidal, il devait tout mettre en œuvre pour que son départ à Kidal ne soit pas contesté par qui que ce soit. Mais malgré les avertissements, malgré les mises en garde, il est allé à Kidal et nous avons récolté ce que tout le monde a vu. Des parents, des chefs de famille qui sont morts pour rien, alors que lui-même, il n'est pas resté à Kidal, il a fui le conflit, il est venu se réfugier ici, il a fait des déclarations de guerre. Et le président, même quand il a dit qu'il y aura 1500 militaires par rapport, le président dit qu'il y aura même plus. Donc moi je dis que c'est les pouvoirs politiques qui ont même poussé à cette guerre pour vouloir se rédiffer après, faire comme si c'est les militaires qui sont partis attaquer. Nos militaires sont disciplinés. Alors, quand on leur a dit d'attaquer, ils ont attaqué. Quand on leur a dit de retourner, ils sont retournés.
Mamadou Dabo, concernant cette visite, pourquoi l'opposition ne s'est pas fait entendre quand il s'agissait pour le Premier ministre d'aller à Kidal?
L'opposition pouvait-elle savoir le degré d'impréparation de cette affaire-là? Je pense que non, l'opposition n'en savait rien. Et ce n'est pas à l'opposition de guider les premiers pas d'un pouvoir. L'opposition constate les débats et l'opposition dénonce. L'opposition est en quête du pouvoir. L'opposition n'est pas au pouvoir, malheureusement. Ceux qui sont au pouvoir, ce sont eux, c'est eux qui doivent bien faire les choses.
C'est compris, Mamadou Dabo du Zénith Balé. Alors, Sekou Tangara d'Africable, toujours concernant cette motion de censure, quelle leçon est-ce que les deux bords doivent tirer de cet exercice au Parlement?
D'abord, pour donner mon point de vue, je ne suis pas du tout d'accord avec le grand frère quand il dit qu'on a raté le coach à travers cette motion de censure. C'est-à-dire, il faut que dans ce pays-là, il ne faudrait pas qu'on ait peur de contredire et qu'on ait honte d'être contredit. La motion de censure fait partie des dispositions de la Constitution du Mali. Elle fait partie du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Et il faut savoir qu'il y a déjà eu des motions de censure au Mali. Par exemple, après les événements liés à l'école en 93-94, il y a eu une motion de censure. Et lors de la débâcle électorale, ce que le collectif des partis politiques de l'opposition en 97 avait appelé débâcle électorale du 13 avril 97, il y a également eu une motion de censure. Donc, ça fait partie du jeu démocratique et il faudrait souvent qu'au Mali, qu'aussi bien l'opposition et la majorité comprennent qu'il nous faut souvent sonder nos institutions, savoir jusqu'où elles peuvent aller. Et c'est pour cela quand on a entendu que bon, la motion de censure, c'est une tentative de déstabilisation. Si c'est une tentative de déstabilisation, Moutaka Tall, qui a fait partie des auteurs de certaines motions de censure, ne serait pas dans le gouvernement actuel du Mali. Donc c'est le jeu démocratique qu'il faut qu'on fasse avec. Bon, maintenant, par rapport à la motion de censure de mercredi dernier, ça a au moins permis aux Maliens, même si l'opposition n'a pas pu renverser le gouvernement Moussa Mara, ça a permis aux Maliens de se rendre compte de l'état des finances publiques, de se rendre compte de ce qui peut être retenu au niveau de l'économie, au niveau de l'armée, au niveau de l'école. Donc je pense que c'est une très très bonne chose. Maintenant, sur le fond, on peut parler des différents points, des récriminations que l'opposition a faites au gouvernement Moussa Mara. Mais dans le contenu en tant que tel, je pense que c'est une très bonne chose. Ça aurait été moi, je pense que chaque 6 mois, chaque 1 an, il faut même des motions de censure. Si on prend l'exemple comme des pays comme le Sénégal, le jeu démocratique, en fait, c'est la contradiction, c'est le débat. Et ça permet à tout un chacun de savoir comment est-ce que ce qui se passe dans le pays.
Alors, le retard dans le décaissement du fonds du FMI.
La motion en soi, c'est un problème. Ce que j'ai dit.
Vous avez dit que l'opposition est passée à côté.
Non, si le timing n'était pas bon. Parce qu'en fait, contrairement à ce qu'on peut, on constate qu'aujourd'hui, ils ont tourné l'affaire contre eux. C'est évident.
Qui
la majorité. Parce que quand on écoute, on a un pays où s'opposer est très délicat. Parce qu'entre s'opposer à quelqu'un par principe et les problèmes de personne, c'est vite. Il y a une grande confusion. En fait, la même gamme.
Alors,
d'ailleurs, quand on voit la réaction, à chaque fois que les gens réagissaient, c'est contre une personne, contre ce malassé. Et pas contre pour la question. On a même, à la limite, galvaudé le débat pour en faire des problèmes de personnes.
Des personnes.
Et finalement.
Il n'y a pas eu de.
On s'est trouvé.
Voilà. Ils ne se sont pas fait de cadeaux au Parlement lors de cette motion de censure. Alors, parmi les questions que aborde l'opposition aujourd'hui, il y a le retard dans le décaissement des fonds du FMI. La majorité nie tout conflit avec le FMI, le Fonds monétaire international, alors que l'opposition, de son côté, parle de règles de gel de fonds au profit du Mali. Que faut-il comprendre de cette situation, Dramane Ali?
Non, je vois qu'il y a l'évidence. Hein. Et dans ce débat, à la limite, je parle de Kadhimou, parce qu'on peut se tromper quand on dirige. Quand on est dirigé, c'est prendre des risques. Diriger, c'est se tromper. Après, le gouvernement s'est trompé dans certains choix, parfois en l'achat de l'avion, mais l'évidence est là. Au moins, il y a ce débat à l'Assemblée, la même nuit, le FMI s'est fendu d'un communiqué dont la presse a publié une copie aujourd'hui, où l'élection de Boutou est claire. Il n'y a plus de cassement jusqu'en septembre. Et en septembre, l'immigration viendra faire évaluation des recommandations faites à notre gouvernement. C'est quoi? Ils ont donné un audit de l'achat de l'avion. Ils ont donné un audit aussi de l'achat des armements et d'autres contrats qui n'ont pas, devant la nature. Ça, c'est un. Deuxièmement, ils ont dit mettre tous les contrats d'achat dans le cadre réglementaire au Mali. C'est que aujourd'hui, on est en situation de blocage. Avant, et quand ils vont venir, ils vont évaluer les mesures qui ont été préconisées, si elles sont bien faites ou pas, il n'y a pas là qu'on va envisager la reprise de la coopération avec le FMI. Et ce que les gens ne savent pas, quand le FMI s'arrête, tout le monde s'arrête. C'est l'agent de notation des institutions internationales.
C'est un peu comme le baromètre.
Voilà, c'est l'agent de notation parce que c'est le FMI qui évalue le respect des principes de bonne gouvernance et bonne gouvernance financière. Et malheureusement, c'est là où je suis très inquiet. Quand on écoute nos autorités, le gouvernement, on pense qu'on peut banaliser cette affaire-là. Elle n'est pas banale. Il faut prendre vraiment beaucoup de garde.
Par rapport au FMI, moi, je suis souvent surpris de l'inconstance de cette institution de Bretton Woods, s'agissant du Mali, par exemple. On se rappelle, pendant la privatisation de la Sotelma, il y a eu des dépenses extra-budgétaires à ce moment-là. On n'a pas entendu curieusement le FMI faire des remontrances au gouvernement dans l'époque, tout. Je ne fais que constater, même si par ailleurs je pense que pour le cas précis, la présidence, le gouvernement ont prêté flanc. Pourquoi? Parce que, à la limite même, c'est une humiliation, c'est une honte pour les Maliens que nous sommes. Puisque depuis plus de 50 ans, le Mali a accepté de faire partie des élèves du FMI. Et imaginez-vous que le professeur fasse retourner la copie pour dire 0 sur 20. Donc c'est une honte pour l'ensemble des 15 millions de Maliens. On ne peut pas dire que dans ce pays-là, il n'y a pas quelqu'un qui maîtrise les règles de passation de marché public. Comment est-ce que, même nous-mêmes, on sait le délit d'initié, quelqu'un qui est conseillé à la présidente de la République du Mali, par exemple, on lui confie un marché aussi important que l'équipement de l'armée. Si la personne veut être opérateur économique, elle reste dans son rôle d'opérateur économique. Si elle veut conseiller le président de la République, elle reste dans son rôle de conseiller du président de la République. Soit par rapport à ce truc-là, on n'a pas consulté les spécialistes, les experts maliens en matière de passation de marché public, soit on s'en est fait à sa propre tête. Sinon, on ne peut pas dire qu'au niveau du ministère des Finances, qu'au niveau du Mali, 15 millions que nous sommes, il n'y a personne qui puisse savoir réellement comment est-ce que les choses se passent. Donc, à la limite, c'est une insulte pour le Mali.
Quand on écoute aussi,
Nous terminons là-dessus. Nous allons en pause et nous reviendrons pour la suite de cette question qui concerne le Mali et le Fonds monétaire international. Et vous aurez la parole, Mamadou Dabo, pour répondre à cette question.
Studio Tamani, URTEL, Fondation Hirondelle.
L'URTEL, c'est l'Union des radios et télévisions libres du Mali.
URTEL, des radios de proximité au service du développement.
URTEL, formation, assistance, accompagnement et facilitation entre radios membres, partenaires et décideurs.
Studio Tamani, pour bien s'entendre au Mali.
Studio Tamani, à Ségou, sur Radio Foucault, 100.8 MHz. Et la radio Sania, 105 MHz. Radio Tessiri de Nyono, 89 MHz.
Studio Tamani à Mopti sur la radio Kounari de Sévaré, 105.4 MHz. Radio Djamana de Djéné, 91 MHz. Et Radio Dahandé de Douansa, 107.7 MHz.
Studio Tamani à Tombouctou sur la radio Djamana, 91.4 MHz. Alpharouk de Tombouctou, 98 MHz. Isaber de Niafunké, 96.3 MHz. Nous sommes à la deuxième partie du débat. Nous sommes suivis un peu partout au Mali et aujourd'hui nous faisons un clin d'œil à la radio Kouroukan de Kita, dans la capitale de la Rachid. Et c'est le volet consacré à la mutinerie à la prison centrale de Bamako. Des prisonniers se sont évadés de la prison centrale. Donc nos invités, Sékou Tangra d'Africable, Mamadou Dabo du Zénith Ballet et Draman Aloukoune de l'Indicateur du Renouveau. Alors juste avant de continuer avec cette deuxième partie, nous demandons l'avis de Mamadou Dabo sur la question du retard que les fonds du FMI vont prendre au profit du Mali. Allez-y.
Oui, par rapport à ce retard, je pense que le FMI est dans ses droits. Sauf que j'ai des inquiétudes, parce que le FMI est dirigé par une Française. Et actuellement, tout le monde sait que entre aujourd'hui la France et le Mali, pas entre les gouvernements, mais entre les populations. La population malienne aujourd'hui n'est pas tout à fait satisfaite de la conduite des opérations, ou une certaine population n'est pas satisfaite de la conduite des opérations par Serval et par l'aménagement. Des reproches ont été faites dans ce sens-là. Même si personnellement, je ne suis pas d'accord avec tous ces reproches.
Mamadou Dabo,
oui,
il y a beaucoup de bruit à vos côtés. Est-ce que vous pouvez vous déplacer voilà. Sinon, il y a beaucoup de bruit à vos côtés.
D'accord.
Voilà.
C'est bon maintenant ?
C'est bon, allez-y.
Donc, ce que je disais, c'est que le FMI peut suspendre momentanément ses opérations à destination du Mali. Mais si c'est là, c'est pour sanctionner des mauvais comportements de nos pouvoirs publics ou des mauvaises pratiques de nos autorités par rapport au décaissement.
D'accord.
Mais s'il s'agit, puisque je le disais, la directrice de FMI est une Française, s'il s'agit pour le FMI de défendre la cause française, je ne suis pas d'accord.
D'accord. Donc nous avons entendu ce point de vue. Nous passons directement à la première partie, enfin au volet consacré à la mutinerie à la prison centrale de Bamako. Pouvait-on prévoir ce cas de figure, Draman Aloukoune ?
Non, on peut vraiment tout prévoir. La prison centrale de Bamako, c'est vraiment comme le grand marché. On y trouve tout, on y fait tout. C'est aussi simple que ça. Tous ceux qui sont de Bamako, qui ont un jour mis le pied là-bas, savent ce qui se passe là-bas. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut se faire la face. On a encore la chance qu'il n'y a pas d'autres dégâts. Sur quoi on peut comprendre qu'un dictateur aussi dangereux puisse disposer d'un fonds de 15 millions dans sa cellule. Quand un dictateur aussi dangereux puisse avoir été dans ses mères, ses conditions de vie. Quand vous avez les genoux, on sait, le monsieur, c'est parce qu'il est à la maison. Il avait un téléphone, il avait un contact avec les soeurs et tout le monde le savait dans la prison. Mais aujourd'hui, on veut s'étonner. Mais ce que je vous dis, prions encore qu'il n'y en a pas d'autres dégâts parce que tout ce qu'on veut comme comportement. Parce qu'en fait, le problème du Mali, ce n'est pas un problème de chef ou de petit. Ce pays, après tout ça, on n'a plus de repère. Il n'y a aucune valeur vis-à-vis de l'argent. Avec un peu de sous, on peut faire tout. Moi, je sais que pour aller voir un prisonnier, il suffit de mettre l'argent dans un autre cadre pour y accéder. Et aussi, moi je me rappelle, j'ai fait des reproches aux gardiens de prison. Ils disent aussi qu'ils ont fait une montée de doléances pour mettre dans un peu de conditions pour travailler. En fait, le tort est partagé. Mais aujourd'hui, de grâce, après tout ce qu'on vient de vivre, qu'on tire une petite leçon de ce qu'on vient de vivre, autant au nord qu'au sud, notre pays est en danger. On n'est pas sorti d'affaires. Malheureusement, quand on écoute certains, on pense être dans un pays normal. Le Mali n'est pas dans un pays normal. On est en face de dangers graves. Imagine ce qu'ils avaient prévu et planifié. Attaquer même la prison. Un attentat à la prison, c'est un carnage. Déjà, c'est une prison qui a dépassé sa capacité
d'accueil.
10 fois.
C'est ce que je voulais demander.
Et si on doit faire un attentat dans cette prison-là, c'est un carnage. Il me semble. Je vous dis aujourd'hui, au lieu de spéculer, une fois de plus, vraiment pour une fois, menons des enquêtes sérieuses. Si tu as responsabilité, sanctionnons et tirons les leçons. Malheureusement, à chaque fois on met en place des commissions d'enquête, il n'y en a rien comme résultat après. Il n'y a pas de sanction.
Alors, qui doit-on attribuer cette évasion, Sékou Tangra ?
aux ennemis du Mali, hein, puisque rien, absolument rien ne serait justifié l'évasion de l'autre jour-là. D'abord, à l'arrestation du monsieur Le Hague Wassoudier, là, il a tenté de dégoupiller une grenade, hein, mais il a été maîtrisé. Donc moi, je me demande, quelqu'un d'aussi dangereux qui a même essayé d'attenter à la vie de ceux qui l'ont escorté jusqu'ici, comment est-ce que on peut l'incarcérer en même temps que des détenus de droit commun? Donc là, la question se pose. Et j'étais l'autre jour, hein, à la prison centrale, le jour où il y a l'évasion, au même titre que beaucoup de reporters, beaucoup de journalistes, je me suis entretenu avec celui qui était au niveau, la sentinelle qui était au niveau du Mirador, du côté de la brigade territoriale. Quand lui, il a essayé de riposter, il m'a dit qu'il a une carabine tchèque, mais qui n'a pas percuté. Donc ça dénote également l'état, voilà, le sous-équipement et tout. Bon. Et puis en tout et pour tout, pour 2000 détenus au niveau de la prison centrale d'arrêt, il n'y a que 22 armes. Donc moi je pense qu'à ce niveau-là, il est temps que les autorités puissent également doter, hein, les surveillants de prison de moyens adéquats, même si leur sous-équipement ne saurait justifier l'évasion de l'autre jour. Le gars, on le savait qu'il était dangereux. Donc, toutes les conditions devaient être prises pour qu'ils ne puissent pas s'évader.
Alors, Mamadou Dabo, est-ce que les prisonniers évadés, à votre avis, représentent un réel danger pour la population aujourd'hui?
Sûrement, oui. Les prisonniers représentent un véritable danger parce qu'ils ne sont pas prisonniers pour rien. Et la preuve est que lorsqu'ils se sont évadés, il y en a qui se sont dirigés sur le marché, le grand marché, pour aller tenter de voler les véhicules. Ils n'ont pas été abattus pour rien dans les rues. Il y en a qui ont été abattus par les populations. Et cela suppose que ce sont vraiment des véritables dangers pour les populations.
Alors,
maintenant, ce que je voudrais ajouter pour compléter mes confrères, c'est pourquoi il n'y a pas de vidéosurveillance à la prison centrale. Cela existait. Et cette vidéosurveillance permet non seulement aux régisseurs de voir tout ce qui se passe dans la prison, mais aussi au ministre, depuis le ministère, de voir ce qui s'y passe. Mais cette vidéosurveillance peut permettre d'éviter des situations rocambolesques de la sorte.
Alors, y a-t-il eu une négligence réelle dans cette histoire?
Bon, on peut parler de négligence, puisqu'on ne sait pas où est-ce que le monsieur il a eu. On dit qu'il détenait un PA. On ne sait pas comment est-ce qu'il a pu se munir de cette arme-là. Et puis aussi, négligence, on dit que c'est l'arrivée d'un plombier qui a été le déclic. Peut-être ce plombier aussi, il faut savoir s'il n'était pas de connivence avec le cerveau de l'évasion. Négligence également, puisqu'on a appris que le monsieur, en avril 2014, une pièce d'identité nationale a été délivrée en son nom au niveau de la gendarmerie de Kadiolo. Mm-hmm. Donc il y a des éléments qui sont là qui peuvent véritablement attester qu'il y a négligence. Mais ce que je voudrais dire par rapport à la maison centrale d'arrêt, nous l'avons hérité de la période coloniale. Et aujourd'hui, Draman l'a dit, hein, ça a dépassé ses capacités 10-15 fois. Aujourd'hui, il est temps de changer la politique carcérale, de réinstaller la prison centrale hors de la ville de Bamako. Imaginez si la fusillade de l'autre jour avait perduré. On aurait assisté au pire, puisque les premières concessions sont distantes du centre pénitentiaire d'au moins 10 mètres seulement. Mmh. Et aujourd'hui, avec l'internationalisation du crime, avec les nouvelles technologies, un malfrat peut venir se fondre dans la population, ou bien utiliser même la population comme bouclier humain. Et là, franchement, si on parvient à réinstaller la prison centrale hors de la ville de Bamako, ça permettra aux populations avoisinantes de respirer au vrai sens du terme. Hein. Si je dis respirer au vrai sens du terme, parce que même en termes de pollution environnementale et tout, souvent, il faut faire un tour dans les alentours pour savoir le martyr, hein, de ces populations-là.
Alors, Draman Allo, il n'y a pas que la prison centrale de Bamako, il y a également la prison de Koulikoro. Est-ce que le monde carcéral aujourd'hui est victime de sa propre politique?
Non, en fait, il y a un problème de politique carcérale, parce qu'en fait, la prison n'est pas une fin en soi. Hein. C'est un lieu de détention pour permettre une réinsertion des délinquants, qu'ils soient mineurs ou majeurs. Bon, or, ce qu'on constate, il n'y a pas cette politique de réinsertion des délinquants. Et deuxièmement, il a parlé de vraiment de réinstaller, de faire sortir de là où il est la prison. Je vois que c'était, il y a certains décès depuis plus de 20 ans. Malheureusement, le terrain qui a été destiné à essayer de voir la nouvelle prison a été morcelé par la mairie ici. Et le ministre de la Justice sortant, M. Koulibaly, là, par la transition, a même décidé de pousser le maire de la justice. Mais on ne sait quoi, ça s'est fini. Hein. On a décidé. En fait, le terrain était à Boulder-Boulé. On devait faire la prison là-bas. Apparemment, on a morcelé. Pour vous dire que ces pays, ce n'est pas un pays. On n'est pas sérieux. Comment une propriété intifoncée, le ministre de la Justice, peut être morcelée par un simple maire? Mais au-delà de ça, il faut qu'on ait une politique carcérale forte sur deux choses. Sur la correction et la réinsertion. La conscience, c'est quoi? Ça amène les gens à se débarrasser de leur... Bon, moi, je suis spécialiste de formation, de la pulsion, de vol, de crimes, et autres là. Et deuxième phase, c'est de les apprendre à revenir dans la société. Malheureusement, il y a beaucoup de gens aussi qui sont en prison qui n'ont pratiquement rien fait. On a eu des cas, quand les journalistes sont été emprisonnés, pour l'affaire des maîtresses de prison, ils ont rencontré un jeune là-bas qui a été envoyé, qui a été en prison plus 6 ans pour 35 000 francs ou 75 francs d'avance. Et quand la chasse le fait sortir, il n'avait aucun document qu'il envoyait en prison. C'est un juge qui a dit à sa garde d'amener ça à la prison centrale et le gars a resté 6 ans. Si on peut faire une étude, une enquête au sein de la prison centrale, on pourra vraiment diminuer vraiment de manière très considérable la population carcérale. Mais malheureusement, ce n'est pas le problème de quelqu'un. Aujourd'hui, on est dans la politique, on est dans ses propres affaires. Il faut qu'on passe aujourd'hui au pays, qu'on passe à l'État. Sinon, c'est le moi-même qui est en danger.
C'est vrai, on en a profité pour parler de la politique carcérale, mais pour revenir à notre évasion de l'autre jour, c'est-à-dire, il ne faudrait pas qu'on oublie pourquoi le monsieur avait été écroué, parce qu'il était impliqué dans le rapt de deux Français enlevés à Ombori. Moi, je me demande même pourquoi on l'a mis justement au niveau de la maison d'arrêt centrale, pourquoi il ne pouvait pas rester emprisonné au niveau de la sécurité d'État ou même des forces militaires, parce que le gars, il est extrêmement dangereux. La question se pose même sur la nécessité de le détenir en même temps que des prisonniers ordinaires.
Ah, mais en fait, c'est un problème, parce que quand tu détiens à la SE, c'est une détention illégale, parce que c'est extrajudiciaire. Ici, on peut faire quand même une prison comme Adgame Guantanamo. Même là, les gens, il y a des problèmes aux États-Unis où on pense que ce n'est pas légal.
Légal.
On peut le détenir à la prison. Alors, la condition est quand même plus meilleure.
Mamadou,
on l'a détenu dans des conditions légales.
Votre avis sur la politique carcérale du Mali?
Je pense que cette politique carcérale est à revoir. Et il faut commencer par étudier s'il n'y a pas eu de complicité entre ce bandit de grand chemin et ceux qui sont dans la charge de garder la prison. Aussi, faut-il former ceux qui gardent la prison? Est-ce qu'ils ont reçu une formation? Est-ce qu'ils ont été recyclés? Parce qu'à un moment, il s'est trouvé que des gendarmes ont été chassés de la gendarmerie par Kadhafi. Ceux-ci on les a mutés au niveau des pompiers et puis de la prison, pour garder la prison. Je ne sais pas s'ils ont reçu une formation dans ce sens. Mais pas garde qui le veut.
Alors nous allons directement partir en pause avant de revenir car il est pratiquement 18h45. Nous observons quelques secondes de pause avant de poursuivre avec ce débat.
Studio Tamani, URTEL, Fondation Hirondelle.
La Fondation Hirondelle est au service du professionnalisme de l'information,
rigueur,
précision,
vérification des faits,
équilibre, pluralisme et bonne gestion.
Studio Tamani, pour bien s'entendre au Mali.
Studio Tamani à Gao sur la radio Nata 91.7 MHz, la radio Adar Kouima 101.7 MHz et la radio communautaire de Bourem 99.0 MHz.
Studio Tamani à Kidal sur la radio Tisdas 91.1 MHz.
Studio Tamani à Bamako sur la radio Liberté 97.7 MHz, radio Benkan 97.1 MHz et la radio Guintan, la voix des femmes 94.7 MHz.
Troisième et dernière partie de ce débat, le Forum de la presse. Merci de nous être fidèles. Il est question dans cette troisième et dernière partie de l'utilisation abusive des biens de l'État. Et nous toucherons deux mots sur la francophonie qui se cherche un chef.
Nous avons comme invité aujourd'hui Sékou Tangara d'Africable, Mamadou Dabo du Zénith Balé et Dramane Aloukone de l'Indicateur du Renouveau. Alors, l'utilisation abusive des biens de l'État, le Mali peut-il venir à bout des abus constatés dans l'utilisation des véhicules? D'abord, Dramane Alou.
Bon, en fait, je vois que ce n'est pas un fait nouveau. Hein. C'est depuis qu'on est quand même le Mali, à part la Première République, où apparemment je n'étais pas encore né. Hein. On disait que l'État, quand même, avait, les biens de l'État étaient vraiment bien gérés, à l'abri des accusations particulières. Mais c'est, les textes sont là, et les textes sont clairs, il s'agit de les appliquer. Mais malheureusement, ceux qui sont chassés de les appliquer sont les premiers à fouter. Parce que je vois que les gens oublient un aspect qui est frontal dans l'autorité. Toute autorité qui n'est pas juste devient faible. Et c'est le cas. On voit peut-être un détail ou un petit chef qui a son véhicule, on l'allume. Mais on voit le ministre avec sa femme, le ministre, ou sa copine avec la voiture de l'État, on ne peut rien dire. Mais dès cet instant-là, on a affaibli l'État. Sinon, les véhicules ont été payés pour des services publics. Pourquoi ils utilisent ces véhicules-là à des fins personnelles? Ce n'est pas normal. Mais parfois, on fait du spectacle. On fait des campagnes pendant 2 ou 3 jours. On met les gens, on a des véhicules, on les arrête. Ensuite, au bout d'un mois, on oublie ça. Nous souhaitons pour une fois, c'est comme le décapissement des voies publiques. Aujourd'hui, les gens sont revenus à leur place. C'est toujours un voyage qui a 2 ou 3 mois. Si on veut vraiment agir, il faut 2 choses. Il faut la justice et aussi la persévérance. Parce que les mauvaises habitudes ont la vie dure. Et pour le combat, il faut avoir la patience et surtout la persévérance dans son combat. Et surtout, et je vais ajouter quelque chose, que les premières autorités commencent par donner le bon exemple. Parce que si jamais on sait que le président de la République ou encore un premier ministre, après le service, il garde son véhicule.
Y a-t-il eu des exemples dans ce domaine?
Bon, je vois que sous Ousmane Sarraud, il avait tenté lui-même. Mais malheureusement, je vois qu'on est dans un pays où on aime trop le spectacle. Au détriment de l'efficacité. Si on veut manquer les biens de l'État, ça se manque les véhicules, hein, y a d'autres choses. On sait dans les services, et je parle des soins des domaines, où tous ceux qui travaillent là-bas travaillent pour eux-mêmes d'abord. Quand quelqu'un envoie son dossier, ça aussi, c'est aussi une question des biens détruits, des biens de l'État, c'est pas un véhicule. Hein. Même les ordinateurs qu'on a dans les services, même les photocopieuses, sont utilisés pour des fins personnelles. Les gens qui sont ils travaillent, ils utilisent pour faire des fins personnelles.
Mamadou Dabo.
Voilà.
Bon, par rapport au véhicule, d'abord, je dirais que j'ai été émerveillé par l'action menée par la police en ville pour retirer ces véhicules-là de la circulation. Bon, maintenant, est-ce que cela va continuer? Je n'en suis pas sûr, parce que depuis une première opération, je n'ai plus rien vu. Alors que c'est la meilleure manière alors de faire perturber, de faire perdurer la bonne situation. Et la bonne situation, c'est quoi? C'est le retrait de ces véhicules quand on ne travaille pas.
D'accord.
Et je pense qu'il y a aussi un garage administratif. Donc les véhicules qui devaient être pendant le week-end dans le garage administratif, alors il faut aller les mettre là-bas. Après, les intéressés, le matin, tous les matins, lundi matin, ils viendront retirer leurs véhicules.
D'accord. Ce point de vue est entendu, Mamadou Dabo Sékou. Qu'est-ce qu'il faut retenir à la fois de l'utilisation abusive des véhicules et également d'autres biens comme les logements?
Moi, je pense qu'il faut revenir sur les fondamentaux, sur l'amour de la patrie. C'est vrai que même si on n'a pas connu la période de la Première République, on est tous nostalgiques de cette période-là. Hein. Quand nos parents, nos grands-parents nous les racontaient, c'est-à-dire qu'à l'époque, le Malien se disait, même si j'avais la latitude d'utiliser comme je veux les biens de l'État, on se gardait. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai, le grand frère Dabo a parlé de l'opération menée l'autre jour par la police par rapport à la récupération des véhicules de l'État, mais c'est du tape à l'œil. Allez-y ce soir ou demain soir, on est en week-end, allez-y devant n'importe quelle boîte de nuit, vous allez trouver au moins une vingtaine de véhicules immatriculés car des fonds bleus. Sortez samedi, dimanche au niveau de la périphérie de Bamako, vous allez voir que nos véhicules administratifs transportent soit des fumiers pour les champs, pour les vergers des autorités et tout, tout, tout. Donc, ce qui est en train d'être fait, c'est vraiment du tape à l'œil. Il faut qu'on revienne vers les fondamentaux, vers l'amour de la patrie. Le véhicule, quand on vous le donne, ce n'est pas pour vous, ce n'est pas pour votre confort, ce n'est pas pour votre enfant ou la sœur de la copine, c'est pour que vous puissiez rehausser, vous puissiez porter haut le flambeau du pays. Il se passe une autre chose qui paraît anodine, Famoussa, c'est qu'au niveau des services, le robinet est utilisé peut-être pour laver son véhicule. Il n'est pas fait pour ça. Si vous voulez peut-être laver votre véhicule, allez-y dans une station ou quelque chose comme ça. Les ordinateurs, Draman en a parlé souvent, c'est le petit frère qui vient dans votre bureau pour surfer sur Internet, pour être sur Facebook. Tout ça, après, ça va impacter c'est sur le dos du contribuable. Moi, je pense qu'il faudrait être assez ferme, assez dur, assez rigoureux par rapport à ces choses-là, puisque c'est à travers elles que le changement, le vrai changement commence. On a tous, après l'élection de 2013, on a parlé d'un nouveau Mali, le Mali Koura. Moi, je pense que ce n'est pas loin. Ça commence par ces petits changements de comportement au niveau de la famille, au niveau du quartier, jusqu'à l'échelle régionale et nationale. Et c'est bien possible.
Alors, au-delà des cadres, il y a également des choses qui se passent dans, les, par exemple, les camps militaires. Il y a des robinets qui déversent de l'eau en longueur de journée.
Il y a un problème. J'en profite certainement. Au Mali, on donne des statuts de privilégiés à certains. Par exemple, quand tu parles, je sais que l'énergie, justement, perd chaque année 7 milliards à cause des camps. 7 milliards.
Des camps militaires.
Mais personne ne peut en parler. Deuxièmement, même les véhicules.
Sauf qu'il faut que l'énergie balaie devant sa propre porte. On a vu des concessions. Aussi, il y a un agent d'EDM. Personne ne paie la facture. Personne ne paie.
Ouais, mais non, en fait, ils ont des réductions de à 20%. C'est vraiment c'est le cas de charges là-bas. Mais malheureusement, ceux-ci aussi parfois vendent ces avantages-là à ceux qui consomment beaucoup. Par moi, j'ai quatre fils, un contrat 4 fils chez moi. Il me donne un contrat à son nom et je lui paye par mois la marge. Ça en fait. Mais quand tu prends le camp militaire, au-delà de ça, moi je crois qu'il faut voir le camp militaire. Les gens amènent maintenant leurs frigos là-bas pour et les gens louent le courant de l'État. Ensuite, même les véhicules des militaires, les véhicules des policiers, les véhicules des douaniers, des journalistes, ils sont immatriculés.
Ah, les journalistes aussi.
Mais il y a beaucoup de journalistes qui suivent ça en immatriculation. Moi j'en sais beaucoup. Mais dès cette salle-là, tu fais deux catégories de personnes et je dis une chose, elle est fondamentale. L'injustice. L'injustice est le premier flot de l'autorité. Dès que l'autorité n'est pas juste, il n'y a plus de. Elle perd le contrôle sur la situation. Et ce qui se passe, tu vois, l'affaire du port de casque, il faut penser où est le problème? Parce que le porteur d'une femme ne sont pas prêts à porter. Donc aujourd'hui, on l'a laissé passer. Il faut qu'on commence à être juste, à être vraiment rigoureux et surtout à être persévérant dans la lutte contre certaines pratiques. Il a dit, c'est avec les petits comportements de chaque jour, ce qui paraît assez. En ont des assez insignifiants qu'on peut commencer à faire le changement profond. Et malheureusement, on fait des spectacles chaque fois. Quand on est coincé ici, on fait des spectacles ailleurs pour détourner l'attention des gens.
Alors nous touchons la dernière partie de ce débat qui concerne la francophonie qui se cherche un chef. Sékou Tangara, l'ancien président de la transition est sans doute candidat à cette présidence de la francophonie. La candidature malienne peut-elle passer?
Une candidature malienne pouvait passer, mais une candidature malienne sous la bannière du professeur Diongouda Traoré, avec tout le respect que je lui dois, ça n'engage que moi. Je ne suis pas trop partant pour la simple raison que l'Organisation internationale de la francophonie, c'est une institution. Si vous la dirigez, il vous faut souvent des prises de position assez claires, sans embâge. Il ne faudrait pas être effacé. Il ne faut pas être discret pour pouvoir diriger une institution comme l'Organisation internationale de la francophonie. Le président Abdou Diouf, c'est un grand homme, au propre comme au figuré. Il a plus de 2 mètres. Et si on doit le remplacer,
c'est méchant contre notre président.
Non, c'est pas méchant. Le président Alpha Omar Konaré a porté haut les couleurs du Mali quand il était président de la commission de l'Union africaine. Des institutions, il faut le leadership, il faut je ne veux pas dire charisme, mais il faut des prises de, il ne faut pas être discret, il ne faut pas être stratège, il faut souvent parler, il ne faut pas être effacé. Le professeur John Kounatra, avec tout le respect que je lui dois, peut-être c'est de l'humilité, c'est de sa nature, mais moi je me dis que pour le Mali... j'aurais opté pour une autre candidature. Bon, sans oublier aussi que ceux qui sont en train de prétendre aussi, il y a l'ancien gouverneur canadien Michael Jean, il y a Henri Lopez qui est l'ambassadeur du Congo en France.
L'ancien président également au Mali.
Voilà, Pierre Bouya aussi. On va voir, on souhaite bonne chance. Mais
Draman Allou.
Bon, je pense que pour le moment, ce n'est pas officiel. Je vois que les gens font la supputation depuis 2 ou 3 mois. On lui prête l'attention, il n'a jamais dit. Et l'État malien, parce qu'il doit porter sa carotte, n'a jamais dit. Mais il y a un fait qui, quand même, qui va le handicaper sérieusement, c'est les bisbilles entre le Gouvernement et Paris. Si la chose était aussi
bonne,
on pourrait espérer qu'avec l'influence de la France, il peut faire passer cette carotte-là. Mais tant le soutien de la France, tant qu'on n'a pas le soutien de la France, la carotte malienne va difficilement passer. Sur les considérations purement de qualité, du charisme, des pêches, c'est vrai que le monsieur il ne tranche pas, ce monsieur ne prend pas position, ce n'est pas bon. Mais tout ça pour moi est secondaire tant que vous n'avez pas le soutien de la France. Mais à l'instant T, je ne pense pas que la France va nous donner quand même cette faveur-là.
Un leader, c'est des prises de position ouvertes, sans embâche.
Non, c'est un jument, c'est un jument, le voleur.
Draman Dabo. Mamadou Dabo. Est-ce que vous êtes vous pouvez nous départager entre les propos de Sékou et ceux de Draman Allou?
Non.
Oui, je dis que Diomunda, comme toujours, est considéré comme quelqu'un qui manque de charisme et de leadership. Mais Diomunda, il faut le reconnaître, c'est un stratège. Il sait bien faire les discours et il sait prendre des décisions quand il le souhaite. Quand il voudrait décider, il décide. Et souvent, il décide même à l'encontre des aspirations des populations. Quand Diomunda dit « je pardonne », quand il avait accordé son pardon à un moment, beaucoup n'étaient pas d'accord avec lui. Pourtant, Diomunda a dit qu'il pardonne. Donc, je dis, c'est un homme qui est capable de décision et c'est un stratège, il l'a démontré à plusieurs reprises. Bon, maintenant, est-ce que cela suffit devant ses adversaires que je ne connais pas bien tous? Voilà toute la problématique.
Merci beaucoup, Mamadou Dabo. Merci à vous, messieurs, de nous avoir permis de combler ces 45 minutes consacrées à ce débat. Voilà, les 3 quarts d'heure de ce débat sont terminés. Je vous rappelle que le Grand Dialogue recevait les confrères de la presse pour analyser les sujets de la semaine. Ces 5 sujets, justement, la motion de censure déposée par l'opposition au Parlement, le retard dans le décaissement des fonds du FMI, la mutinerie à la prison centrale de Bamako, l'utilisation abusive des véhicules de l'État, des biens de l'État et la francophonie. Nos invités, Sékou Tangra d'Africable, Mamadou Dabo du Zénith Ballet et Draman Allou Koné de l'Indicateur du Renouveau. Merci à vous messieurs pour votre disponibilité. Je suis Famoussa Sidibé, assisté à la technique par Petting Diara. Ousmane Diadje Touré m'a aidé à réaliser cette émission. Bon week-end.
Sigi Kafoba
Edowani wa Makaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Halud Maundi.
Chen Nibiru. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.